nous allons accueillir maintenant Franck, Laurent et Pascal Nourry. Et
donc on est sur notre stand si vous avez des questions. Merci.
Donc, alors qu'ils se présentent comme un duo complémentaire et atypique à une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité chez Orange. Donc Franck Laurent comme juriste sécurité et coordinateur sécurité globale et Pascal Nourry comme ingénieur et responsable de l'équipe sécurité des réseaux. Donc ils vont nous présenter donc les aspects législation à deux voix. C'est à vous.
Bonjour à tous. Alors comment ça fonctionne ici pour passer à la page suivante? On va voir donc les rêves que nous amène la 5G. Il y a beaucoup de rêves qui sont exposés un peu partout. On verra ensuite que les opérateurs de communication électronique sont soumis à des législations qui sont assez restrictives. Et donc, étant soumis à des législations aussi restrictives sur la sécurité et de nos réseaux et des données, on se demandera pourquoi il a fallu une nouvelle loi sur la 5G. On examinera ensuite le texte de la loi et Pascal vous fera une conclusion sur nos interrogations, disons, sur les possibilités de déploiement de la 5G suite à cette nouvelle loi.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un commercial ni un marketing, donc je suis ingénieur. Je vais rester sur le domaine technique. Dans le domaine de la 5G, il y a trois parties qui sont mises en avant en termes de rêve. Il y a une première partie qui est la montée en débit grâce à la 5G, du 1 gigabit par seconde de trafic sur un terminal sera une réalité probablement. Il y a également le fait d'adresser ce que l'on appelle du Massive Machine Type Communication, c'est-à-dire tout ce qui est objet connecté, mais cette fois-ci beaucoup plus massif que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et le troisième point concerne la disponibilité et la faible latence qui sera promise par les réseaux 5G. Donc c'est un triptyque qui est assez fondateur en termes de structuration technique des différents chantiers qu'il y a eu ensuite à la 3GPP en termes de normalisation et de standardisation. Alors je vous ai représenté ici un modèle simplifié d'un réseau 4G avec sur la partie gauche votre smartphone. Votre smartphone va être attaché à une antenne 4G aujourd'hui. Et derrière cette antenne, vous allez avoir un cœur de réseau qui est opéré par un opérateur comme Orange, avec la partie signalisation qui va remonter sur la partie haute et la partie trafic utilisateur qui apparaît sur la partie basse. Sur la partie, lorsqu'on va basculer sur les premiers déploiements de 5G, ça sera une sorte de faux 5G entre guillemets, puisque le cœur de réseau, si vous avez bien suivi, n'a pas été modifié. Donc on reste sur un cœur de réseau qui est 4G. La seule chose qui va être modifiée, c'est qu'on va venir rajouter des antennes radio 5G qui seront dépendantes, qui seront des antennes filles d'antennes 4G. Toute la signalisation va passer sur la 4G. Toute la signalisation sera de la signalisation 4G. Cette petite astuce va nous permettre d'ouvrir un service 5G en termes de montée en débit. Mais c'est la seule fonctionnalité par rapport aux trois rêves que je vous ai présentés à l'instant. C'est la seule fonctionnalité que l'on va pouvoir ouvrir. Mais c'est une fonctionnalité qui est attendue par le grand public. En effet, l'antenne 5G sera capable de gérer de nouvelles fréquences et de monter donc à des débits de l'ordre d'un gigabit par seconde. Il va y avoir une deuxième phase plutôt à horizon 2022. Donc la phase précédente, c'est l'année prochaine, dans les mois à venir. En 2022, on aura cette fois-ci tout le cœur de réseau qui va basculer dans un cœur 5G. Alors, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents composants, mais nous allons avoir une segmentation beaucoup plus forte entre le plan utilisateur, qui sera amené à croître rapidement en raison des différentes appétences, et la partie signalisation, qui, elle, laissera une large place à la virtualisation. La virtualisation est un sujet qui est d'importance dans la 5G. C'est l'une des raisons pour laquelle Grégory et Jean-Michel nous ont présenté un petit peu l'état de nos travaux côté Orange. Mais il y a d'autres aspects qui vont être regardés, notamment le fait de pouvoir découper en tranches le réseau dédier une tranche, par exemple, à des services qui sont critiques, dédier une autre tranche pour la consommation, je dirais, grand public, et peut-être une troisième tranche pour une entreprise qui sera un partenaire d'Orange.
Alors, comme je vous le disais, les opérateurs de communication électronique ont des obligations particulières de sécurité. C'est posé par un texte que les plus enthousiastes d'entre vous iront lire certainement, si vous avez des longues soirées d'hiver et des insomnies, c'est le Code des postes et communications électroniques, avec les articles L32.1, L33.1, D98.4 et 5 sur l'intégrité, la disponibilité et la sécurité du réseau, c'est-à-dire que les opérateurs doivent, et ça c'est vérifié par le ministre qui est chargé des postes et communications électroniques, doivent assurer la sécurité de leur réseau. Avec des possibilités pour le ministre qui est chargé des communications électroniques de faire réaliser par l'ANSSI des contrôles, qui sont des contrôles annuels sur notre réseau ou nos services, avec un contrôle par an, voire même plusieurs, si on a eu des incidents qu'on a déclarés. Dans ces cas-là, suite à incident, l'ANSSI va pouvoir venir vérifier la sécurité de nos réseaux et services. Pour les opérateurs qui seraient des opérateurs d'importance vitale, vous avez aussi le Code de la Défense, avec les articles L1332 et suivants, du Code de la Défense relatif aux infrastructures d'importance vitale et aux systèmes d'information d'importance vitale, avec des règles spécifiques qui ont été établies pour les opérateurs de communication électronique et pour Internet. C'est un sous-secteur d'activité d'importance vitale, avec des règles notamment qui portent sur l'administration des postes, la surveillance, les remontées d'incidents, et le déport des outils d'administration réseau. On a aussi une grande partie sur le secret des correspondances. C'est quelque chose qui est important dans les opérateurs de communication électronique. On doit le rappeler d'ailleurs à nos salariés. C'est une obligation légale de rappeler à nos salariés le respect du secret des correspondances. On est soumis à ce secret-là. Donc c'est aussi les articles L32.1, L33.1, et dès 98.5, obligations qui sont pénalement répréhensibles. Hein. Vous avez des infractions pénales pour les salariés qui permettraient de faire réaliser une interception illicite. C'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et puis, on a tout un système d'autorisation administrative préalable sur les équipements qui permettraient de réaliser des interceptions. Ça, Pascal va vous en parler tout à l'heure quand on parlera de la différence entre la nouvelle loi 5G et le régime qu'on appelle nous R226, qui est basé sur les articles 226.3 du Code pénal, avec toute une procédure d'autorisation administrative préalable pour la détention, l'acquisition d'équipements qui permettraient de réaliser des interceptions illicites. On a aussi des obligations spécifiques, en plus de ce qui est prévu par la loi informatique et liberté et le GDPR, le règlement européen sur les données, parce que on est considéré comme étant détenteur d'informations qui sont, alors pas sensibles au sens de la réglementation sur les données à caractère personnel, mais qui sont très intrusives dans la vie privée des personnes. C'est-à-dire que quand vous avez de la géolocalisation, vous avez toutes les communications d'une personne avec qui elle communique, etc. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui a rappelé que c'était des données qui étaient extrêmement intrusives dans la vie privée des personnes. On a des règles applicables aussi à la conservation des données de trafic, c'est-à-dire la géolocalisation, qui appelle qui, pendant combien de temps. On a une obligation de les conserver pour les autorités pendant une durée de 12 mois. Et on a des obligations de sécurité à y associer, à associer sur ces données, en fait. Alors, vous allez me dire, si vous avez autant d'obligations de sécurité, pourquoi une nouvelle loi sur la 5G ? Tout d'abord, il y a un contexte, en fait, sur la 5G, où il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, sur notamment certains fournisseurs. Il y a la Commission européenne qui a fait en mars une réglementation pour une approche commune au niveau de l'Union européenne, avec des risk assessments nationaux qui ont été remontés par 24 pays sur 28 le 19 juillet 2019. Et un risk assessment coordonné qui a été sorti par l'Union européenne là, le 9 octobre dernier. L'Union européenne doit publier une boîte à outils sur les mesures qui permettraient de restreindre les risques d'ici à la fin de l'année. Les États membres sont encouragés à coopérer avec la Commission et l'ENISA. Il y aura un examen de tout ça le 1er octobre 2020. En France, c'est l'ANSSI qui lead les efforts sur cet aspect.
Alors ça, c'était pour le contexte européen. Si on se focalise un petit peu sur le contexte un peu plus français. Déjà, il y a un point qui gêne énormément le gouvernement, et en l'occurrence l'ANSSI, c'est qu'aujourd'hui, toute la partie radio n'est pas couverte par la réglementation actuelle, ou très peu couverte, notamment sur l'aspect R226. Les autorisations qui doivent gouverner tout ce qui est relatif au secret des correspondances ne couvrent pas aujourd'hui les équipements radio. Or, il peut s'agir d'un élément qui est particulièrement sensible. Si vous regardez un réseau d'un opérateur, non pas sous l'angle de la confidentialité des données, mais sous l'angle de la disponibilité et de l'intégrité du réseau. Si toutes les antennes 5G tombent, vous n'avez plus de service, bien sûr. Et cela amène également à se poser la question, mais finalement, quels sont les services qui vont reposer sur la 5G ? Il y en a un qui peut paraître trivial, qui est les appels d'urgence. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bornes d'appels d'urgence sur l'autoroute. Ce n'est pas pour rien, c'est que tout simplement, la population est massivement équipée d'un téléphone portable. Et lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a besoin de secours, les gens ne se posent plus la question d'aller voir le voisin ou d'aller chercher un téléphone fixe. Ils prennent leur mobile. Donc, toute la partie appel d'urgence est considérée comme étant un service particulièrement sensible pour les autorités françaises. Il y a également le fait que les services du ministère de l'Intérieur au sens large et du ministère de la Défense ont vocation à utiliser plus largement les réseaux civils, notamment les réseaux 5G, y compris en situation d'urgence. J'ai souvenir, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, d'avoir une saturation complète du réseau localement sur la ville de Toulouse au moment de cette explosion. Bien sûr, dans le contexte de la 5G, il est envisagé d'avoir des services différenciés, un service différencié entre le grand public, qui aura dans de telles circonstances un accès limité au réseau, du moins dans la limite de ses capacités, et les services d'urgence qui, eux, auront toujours la capacité de passer des appels entre eux, bien sûr, pour des besoins de sécurité civile. Il y a d'autres aspects qui intéressent également le gouvernement et qui ont été rappelés lors du débat parlementaire. C'est également le fait que la 5G est tournée vers les entreprises. Elle a vocation à révolutionner la façon dont nous interconnectons les usines et dont les usines elles-mêmes fonctionnent, ce qu'on appelle la factory 2.0. Et c'est des sujets qui intéressent grandement aujourd'hui l'ensemble des acteurs. Le dernier sujet qui a été porté également à la connaissance du grand public dans le débat parlementaire était le sujet des voitures connectées. Aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus connectées. On va le voir encore dans une session cet après-midi. Et c'est un sujet relativement important. Si l'ensemble des communications des voitures passe sur le réseau des opérateurs, il faut tout simplement s'assurer qu'ils soient disponibles. Un dernier sujet également qui intéresse l'ANSSI et les opérateurs, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation était très focalisée sur la confidentialité des communications, mais d'adresser finalement peu la partie administration des équipements. L'administration des équipements, comme l'a rappelé tout à l'heure Franck, a été mise en avant dans le contexte de la loi de programmation militaire 2014-2019, et elle a été vraiment très, je dirais, très mise en avant dans le contexte de la 5G, puisque le gros de la demande d'autorisation porte justement sur une description de la façon dont les équipements vont être administrés et exploités. Mais je vais y revenir, on va y revenir après.
Alors après, une tentative en début d'année 2019 qui a été un peu avortée parce que le Sénat a refusé de voter un texte qui leur avait été un peu présenté sous la table. Il y a une loi du 1er août 2019 qui vise à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. Bon, nous, on l'appelle la loi 5G, parce que sinon, c'est un peu long. Donc, elle est destinée à préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité nationale. Et elle introduit une nouvelle autorisation administrative préalable pour l'installation d'équipements de réseau. La liste des équipements, elle est précisée dans un arrêté dont Pascal va vous parler. La procédure de demande d'autorisation est précisée par un décret également, dont Pascal va vous parler. Textes qui n'ont toujours pas été publiés, alors qu'ils auraient déjà dû être publiés depuis quelques semaines, on va dire. Le Premier ministre, il va refuser l'autorisation, alors une autorisation qui pèse uniquement sur les opérateurs qui sont opérateurs d'importance vitale. La demande d'autorisation ne pèse pas, contrairement aux autorisations qu'on dit R226, sur l'équipementier, elle pèse uniquement sur l'opérateur. Et le Premier ministre va refuser l'autorisation s'il considère qu'il y a un risque sérieux pour la défense et la sécurité nationale dû à un manque de garantie sur le respect des règles relatives à la continuité, l'intégrité, la sécurité et la disponibilité du réseau ou la confidentialité des messages et des informations. Pour apprécier ce risque, le Premier ministre va prendre en compte le niveau de sécurité des équipements, leur déploiement également et leur exploitation par l'opérateur lui-même, mais aussi par ses fournisseurs et ses sous-traitants. Et il va également regarder quel est le niveau d'ingérence que peut avoir un État qui est étranger à l'Union européenne sur soit l'opérateur, soit le sous-traitant. Soit dit en passant, c'est un peu compliqué pour l'opérateur de deviner à l'avance si son sous-traitant est soumis à un acte d'ingérence d'une autorité qui est extérieure à l'Union européenne. Par exemple, qu'est-ce qu'un acte d'ingérence ? Est-ce que si Alcatel était mis sous tutelle judiciaire des autorités américaines, est-ce qu'on considérerait que c'est un acte d'ingérence ? Est-ce que ça risquerait de mettre en péril la demande d'autorisation ? C'est un peu compliqué pour les opérateurs d'arriver à apprécier ce genre de choses. Alors, d'autant plus que si on exploite des équipements qui n'ont pas été autorisés ou dont on ne respecte pas les conditions d'autorisation, il y a des tas de sanctions qui sont très sympathiques, notamment 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende, plus les sanctions pour les personnes morales, hein, en plus de la confiscation du matériel. Vous pouvez avoir l'interdiction d'exploiter un réseau, ça peut être un peu gênant. La loi s'appliquerait rétroactivement aux équipements qui ont été déployés à compter du 1er février 2019, donc en début de cette année. Et heureusement, et c'est ce qu'on avait demandé, c'est que l'autorisation R226-7, donc qui est prévue pour les équipements qui permettraient de réaliser des interceptions, n'est pas applicable quand on doit demander une autorisation basée sur cette loi. En fait, on n'a pas de double autorisation, les opérateurs n'ont pas de double autorisation à demander.
Ce qui quand même va alléger, entre guillemets, le dossier.
Alors, tout à l'heure, on a fait allusion, l'arrêté qui précise les équipements qui sont concernés par cette nouvelle demande d'autorisation 5G, n'est toujours pas publiée aujourd'hui. Nous sommes le 19 novembre. Elle aurait dû être publiée au plus tard le 2 octobre. Et bon, force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a une certaine satisfaction de la part des opérateurs, tout de même, dans les projets d'arrêté qui circulent actuellement, à savoir que nous avons réussi, par rapport aux autorisations R226, nous avons réussi à mettre dans la loi le fait que les autorisations reprennent la terminologie des standards de normalisation. Ça peut paraître peu, mais la réglementation R226, aujourd'hui, capitalise sur un certain flou sur la liste des équipements qui sont concernés. Là, au moins, c'est à peu près carré, c'est les fonctions au sens 3GPP du terme. Donc, si on regarde par rapport au petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, de manière, ce n'est pas bien compliqué, c'est tous les équipements. Il n'y a pas d'exception. Tous les équipements du cœur de réseau, tous les équipements de la partie radio d'accès, tous les équipements sont concernés. Là où, dans le contexte R226, il n'y avait que la moitié des équipements, grosso modo, qui étaient concernés. Donc il y a une extension, je dirais, du périmètre dans le contexte de cette nouvelle loi 5G. Si on regarde la procédure qui... Le décret qui vise à préciser la procédure pour déposer le dossier et les modalités en termes de suivi par le HGDSN ou par l'ANSSI des dossiers de demande d'autorisation. Là encore, même constat que tout à l'heure pour l'arrêté, le décret qui devait être publié le 2 octobre, au plus tard le 2 octobre, c'est ce qui est mentionné dans la loi 5G, n'est toujours pas publié aujourd'hui, le 19 novembre, et a priori il ne sera pas publié dans les jours à venir. Ce qui va mettre les opérateurs dans une situation un peu délicate, puisque normalement, les opérateurs avaient jusqu'au 2 décembre pour déposer des dossiers. Ça ne va pas être possible. Alors, si on regarde quand même un petit peu le contenu des projets de dossiers qui ont été communiqués par le ministère des Finances, notamment, le dossier laisse une part relativement importante à la partie administration des équipements. C'est-à-dire que lorsque un opérateur comme Orange va faire une demande d'autorisation 5G, il devra préciser de façon très précise non seulement comment l'équipement va être configuré, notamment sur les fonctions de sécurité, mais également comment est-ce qu'il va être exploité. Comment les opérateurs, comment les exploitants vont se connecter sur les équipements, par quelle zone de rebond est-ce qu'ils vont passer, comment les sous-traitants ou les prestataires de services qui peuvent intervenir sur ces équipements vont se connecter également sur ces équipements, quel est le niveau de sécurité du poste d'administration utilisé, tout est passé au crible. En tout cas, aujourd'hui, dans le projet de décret, puisque, encore une fois, le projet de décret n'engage que celui qui l'y a écrit jusqu'à présent, mais il peut être modifié par le Conseil d'État. Alors, si l'on se risque à faire une conclusion dans la situation actuelle, il y a une réglementation française qui était déjà relativement riche dans le domaine des opérateurs de communication électronique, que ce soit avec le CPCE, avec le code pénal, donc le code de poste et de communication électronique, le code pénal, le code de la défense. Bref, on enchaîne un peu une loi, à peu près une loi par an, je pense, depuis 2012. Néanmoins, il y a une volonté d'aller encore plus loin, et je pense que dans le domaine, les autorités françaises et les opérateurs sont assez en avance par rapport à d'autres pays européens. Il y a une volonté d'aller encore plus loin, notamment sur toute l'administration des équipements. L'ANSSI a également des capacités d'audit, et bien sûr, elle a la capacité de vérifier que ce que l'opérateur déclare est bien mis en œuvre. Donc il y a tout un arsenal qui est mis en place et les opérateurs n'ont pas de choix que d'avancer dans le sens d'une meilleure prise en compte de la sécurité. Après, néanmoins, il faut en voir aussi les opportunités qui s'offrent aux opérateurs dans le contexte de un 5G. Il y a quand même des enjeux de business qui sont relativement importants, non pas seulement sur la partie résidentielle ou grand public, mais également dans le domaine des entreprises, dans le domaine institutionnel, puisque les réseaux 5G des opérateurs ont bien vocation à être utilisés par tous et pas uniquement par le grand public. Je pense que...
Oui. Merci. Donc, merci Franck et Pascal. On a le temps pour prendre quelques questions. On a une en haut à droite, en remontant l'amphi.
Alors vous avez compris, c'est un binôme. Donc en fonction de la question, ça sera l'un ou l'autre. Si c'est juridique.
Ou les deux, peut-être.
Peut-être.
Bonjour. J'avais une petite question moi, par rapport à tout ce qui est équipement en cœur de réseau, Huawei notamment. Comment vous le gérez aujourd'hui?
Alors en cœur de réseau, la réponse elle est relativement simple. Aujourd'hui, nous avons d'autres fournisseurs.
D'accord. C'est ça la réponse, d'accord. Okay.
Bah, oui, on n'a pas la problématique qui se pose. Donc,
D'accord, ok. Merci.
Juste une précision hein, par rapport à la loi qui a été publiée, que d'aucuns ont appelé anti-Huawei. Les autorités ont dit, rappelé et répété que ça n'était pas destiné à contrer Huawei, mais que c'était destiné à contrer des actes d'ingérence de éventuellement d'autres pays hors de l'Union européenne. Position officielle.
Une autre question ? Oui. En bas, voilà. Oui, oui.
Merci. On commence à voir des équipementiers, des nouveaux équipementiers qui fournissent des cœurs de paquets, des cœurs de réseau mobile, offrir des architectures qui se déploient dans le cloud public, comme AWS. En quoi il y a le contexte réglementaire s'applique aussi à des acteurs comme AWS qui pourraient éventuellement fournir une infrastructure télécom? Est-ce que c'est des aspects qui sont déjà regardés ou...
Alors, c'est un sujet qui revient de façon récurrente à AWS ou Flexible Engine ou ce que vous voulez, hein, parce qu'on a également nos champions en France. Le sujet questionne. On a plusieurs problématiques concernant les fonctions réseau. On a des problématiques qui sont d'ordre de dimensionnement, c'est-à-dire que sur la partie, en tout cas utilisateur, on a des débits qui sont tellement élevés que partir sur un cloud... compliqué. On utilise déjà 100% des ressources de ce qui est possible en hardware. Sur les fonctions de cœur de réseau, on pourrait plus se poser la question. Néanmoins, les contraintes réglementaires font que, dans la mesure où on nous demande de plus en plus de maîtriser l'intégralité de l'exploitation des équipements, y compris les systèmes sous-jacents virtualisés et les systèmes hôtes, dans un cloud comme Amazon, c'est un petit peu difficile. Puisque typiquement, vous n'avez pas de visibilité au-delà de la politique de sécurité publique d'Amazon. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez aucun moyen de contrôle de ce qui est fait en sous-jacent. Donc, c'est une porte qui se referme assez naturellement pour nous, dans le contexte de la 5G en tout cas. L'orientation est bien de déployer notre propre infrastructure sur des POP régionaux, de façon à maintenir les performances et maintenir également les temps de latence relativement bas, tout en maîtrisant l'intégralité de l'infrastructure. Il y a bien cette notion d'intégralité d'infrastructure qui doit être sous contrôle des opérateurs. Je serais surpris qu'il y ait des acteurs nationaux qui partent sur un cloud qui soit public.
Très bien. Ben, merci Franck et Pascal. Ceci conclut notre matinée.